les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour si vous nous rejoignez sur REC 103.7 et les chemins de traverse pour cette émission. Vous savez que chaque semaine, essaie de vous emmener un peu partout dans la Vienne. Je suis aujourd'hui en présence de trois invités qui m'accompagnent avec Isabelle Soulard, donc historienne, avec Béatrice Guillonnet qui est animatrice patrimoine sur Montmorillon, sur la CCVG, et enfin Geneviève Pinson qui est archéologue. Mesdames, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien. Merci beaucoup.
Très heureux de vous recevoir. J'ai Isabelle qui est venue. Je te remercie, Isabelle, d'être venue parmi nous aujourd'hui. Tu ne vas pas rester parce que tu as pas mal d'occupations. Tu es venue au moins pour le lancement de cette émission. Si tu veux venir, c'est parce que tu as demain une conférence et que tu es en préparation par rapport à cela, qui va se faire à jouer.
Voilà, demain, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et dans la Vallée des Fresques, nous organisons avec le PCC, Abbaye de Saint-Savin, Vallée des Fresques, une journée consacrée aux femmes. Alors, en quoi ça consiste ? De 15h à 16h30, nous vous proposons de découvrir comment les artistes du Moyen-Âge peignaient et représentaient les femmes sur les murs des églises d'Antigny et de la chapelle de Jouet. Ensuite, à 16h30, donc, je donnerai une conférence sur les droits des femmes au Moyen-Âge avec certain nombre de droits qui existaient, puis ces droits qui ont disparu et comment par la suite on va les recouvrer. Et pendant tout le week-end, eh bien, il y a sur Jouet, à la Belle Idée, une exposition de 8 femmes artistes qui vivent sur le territoire du Chauvinois et du Montmorillonnais et du Saint-Savinois. Des femmes qui travaillent ici et qui vont exposer leur œuvre donc dans la galerie de Jouet, la Belle Idée.
Exactement, une galerie que tu nous proposes de découvrir, avec un charme particulier, avec des propriétaires, on va dire, un peu particuliers, je crois.
Oui, tout à fait, ce sont des artistes, ouais. Catherine Pain et Laurent créent des objets qui se bougent, qui sont assez exceptionnels. Et en même temps, ils font de ce lieu, qui est une ancienne colonie de vacances, un lieu d'artistes avec des ateliers, avec des conférences, avec une galerie d'exposition, avec des propositions artistiques, des propositions aussi de calligraphie, de création d'objets, etc. C'est vraiment un lieu à découvrir. C'est à Jouet, 10 rue de l'Ancien Charron, donc dans la vallée de la Gartempe.
Exactement, la vallée de la Gartempe que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos autres invités, donc Béatrice Guillonnet qui connaît bien le secteur du Sud-Vienne et Geneviève Pinson. Tiens, tu vas nous les présenter d'ailleurs, Isabelle, tu les connais mieux que moi forcément.
Alors, je les connais un petit peu, effectivement. Ce sont deux femmes exceptionnelles. Je vais commencer par Geneviève Pinson, donc, qui est archéologue et qui a eu des fonctions extrêmement importantes dans le milieu de l'archéologie et qui est surtout la personne qui est en charge du roc aux sorciers. Le roc aux sorciers à Angles-sur-Langlin, que l'on surnomme le Lascaux de la sculpture. Et elle vous en parlera tout à l'heure avec sa passion. Habituelle.
Exactement, un endroit magnifique à découvrir pour celles et ceux qui ne le connaissent pas.
Quant à Béatrice Guillonnet, donc, est animatrice pour le Pays d'Art et d'Histoire. Et elle nous emmène régulièrement sur les chemins de randonnée, mais les chemins du patrimoine, je dirais, puisqu'elle nous fait découvrir avec tout autant de passion les lieux emblématiques du territoire de la CCVG, donc de la communauté de communes Vienne et Gartempe.
Exactement. Je suis très heureux de vous recevoir, madame et mesdames, ici parmi nous aujourd'hui. Béatrice, ça fait longtemps et j'essayais de vous joindre. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Puis le temps passe et on s'aperçoit que, heureusement, qu'on a des gens qui peuvent venir, comme Isabelle Soulard, et nous permettre cette rencontre. Vous êtes animatrice, on le disait, à Montmorillon, sur le Montmorillonnais. Vous êtes habituée des radios, notamment sur nos amis de Radio Agora. Vous faisiez une émission il y a un certain temps. Je ne sais pas si elle va reprendre ou si elle est...
Nous espérons effectivement la reprendre. Elle s'appelle aussi Chemin de Traverse. Donc elle était née il y a quelques années et puis c'est une émission qui permettait de découvrir le patrimoine. On avait commencé par la ville de Montmorillon et puis là l'idée c'est d'élargir un petit peu maintenant au territoire, à l'ensemble des sites majeurs ou plus méconnus. Donc pour continuer à faire découvrir ce territoire aux personnes qui parfois ne peuvent pas aussi se déplacer sur les balades. Et donc ça permet de toucher aussi un public qui n'a pas cette possibilité-là, donc soit parce qu'il est loin, soit parce qu'il ne peut pas physiquement.
Exactement.
Donc c'est l'occasion de faire découvrir.
Voilà, on vous voit régulièrement sur les réseaux sociaux aussi, hein. Vous êtes en vadrouille, en balade, en tout cas pratiquement tous les week-ends, tous les jours même.
Assez régulièrement, oui.
Assez régulièrement, sur tout le sud de Vienne. C'est assez important au niveau du secteur géographique.
55 communes, oui, ça commence à faire une belle, on va dire, un beau territoire avec en superficie, nous sommes à peu près entre le quart et le tiers du département de la Vienne. Donc ça commence effectivement à faire un beau territoire, un beau terrain de jeu.
Exactement, la CCVG. Nous avons ici aujourd'hui en représentante Geneviève Pinson qui elle est plutôt sur la communauté de Grand Châtellerault, hein, puisque c'est angle sur angle, ce qui me permet de dire d'ailleurs qu'on situe ici à Chauvigny dans un secteur, enfin au cœur du triangle d'or du Poitou, dans un secteur assez particulier, puisqu'on a la communauté de communes de Grand Poitiers, on a la CCVG et on a le Grand Châtellerault, ces trois communautés de communes, donc pour un seul secteur, pour ce triangle d'or, donc Chauvigny, bien évidemment, la cité médiévale, Angle-sur-Anglin, c'est le Roc aux Sorciers, qu'on va découvrir dans un instant, et Saint-Savin, l'abbaye, bien évidemment, classée au patrimoine mondial, et la Vallée des Fraises dans la continuité. On va visiter un peu la Vienne, le Sud-Vienne, hein, en s'intéressant à la Gartempe, en s'intéressant aussi à ses affluents, puisqu'on va passer du côté de l'Anglin. Lorsque l'on arrive du côté de la Tue-Saint-Rémy, hein, vous connaissez bien, je pense, Béatrice, le secteur, c'est un secteur qui est assez particulier avec ce chaos, hein, lorsqu'on arrive dans la Vienne.
C'est ça, la Gartempe arrive des contreforts du Massif central, hein, elle arrive de la Creuse, elle va se jeter dans la Creuse, la rivière, mais elle va passer par effectivement différents socles géologiques, et donc elle arrive sur le granit. Et à la Tue-Saint-Rémy, c'est bien connu, donc il y a le site du Roc d'Enfer, qui est un site à la fois, bien sûr, assez bucolique et très agréable pour les balades. C'est aussi un site empreint de légendes, et puis c'est aussi un site sportif, il ne faut pas l'oublier.
Exactement.
Donc, que ce soit d'ailleurs en balade à pied ou en canoë,
oui.
C'est un petit peu sportif. Mais effectivement, là, on arrive sur encore les chaos granitiques, et c'est après, sur la commune de Saugé, que la Gartempe va s'assagir un petit peu et puis passer sur le calcaire et être plus large.
Exactement. On a eu la chance avec Isabelle l'année dernière de partir de Saugé d'ailleurs, hein, en canoë. On manquait un peu d'eau, c'était l'été, mais c'est vrai que c'était très 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 agréable. Il y a le CPA d'ailleurs, hein, du côté de la Tue, hein, qui fait un merveilleux travail pour la jeunesse, et puis pas que d'ailleurs pour les sportifs, hein, pour l'ensemble. Ça permet de descendre petit à petit, on va faire le descendre la rivière et s'intéresser aussi aux affluents, hein, avec Geneviève qui est du côté d'Angle-sur-Anglin. Donc cet endroit magnifique. Comment vous avez découvert, vous, le Roc aux Sorciers?
Ah, c'est toute une histoire de ma vie d'archéologue, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est le lieu pour le raconter intégralement, mais je vais vous en dire deux mots. Déjà, je suis lussacoise, donc chaque fois qu'on partait de Paris pour aller passer les vacances chez les grands-parents et avec mes parents, on passait par Angle-sur-Langlin, c'était incontournable. Et puis, lors de ma maîtrise, je souhaitais absolument étudier les saguédites de Lussac-Angle. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à rencontrer Suzanne Cassou de Saint-Mathurin, qui était celle qui avait découvert les sculptures du Roc aux Sorciers. Donc à ce moment-là, moi, je travaillais au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et la rencontre s'est faite et en fait, ça a tracé toute ma vie de préhistorienne. Et c'est comme ça que je me retrouve encore à travailler sur le Roc aux Sorciers, à peu près 40 ans plus tard. Voilà.
Ça me permet, on y reviendra tout à l'heure sur le Roc aux Sorciers, bien évidemment. Ça me permet de parler d'une conférence qui aura lieu bientôt, c'est le 22, hein. Le 22 mars. Tu nous en dis un mot, Isabelle?
Oui, tout à fait. Alors, le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Et donc, à l'abbaye de Saint-Savin, dans l'auditorium, nous allons vous proposer une double conférence. D'une part, avec Geneviève Pinson, qui va évoquer les artistes de la préhistoire dans la vallée de la Gartempe et, bien sûr, de ses affluents, donc l'Anglin, et Béatrice Guyonnet, qui va évoquer la Gartempe dans l'histoire. Puisque j'ai choisi comme thème pour cette journée mondiale de l'eau, au fil de l'histoire dans la Gartempe. Et on terminera par des dédicaces de Bénédicte d'Orgeval qui vient d'écrire, de publier un livre d'aquarelles sur la Gartempe et le livre de Diane de Moussac Pareil, ce sont des aquarelles sur aussi sa vallée, carnet de voyage dans la Gartempe. Donc une journée exceptionnelle, 22 mars, avec deux femmes formidables qui vont nous faire rêver, nous raconter cette histoire extraordinaire des hommes dans la vallée de la Gartempe. Hommes et femmes, bien entendu.
Exactement, dans un site magnifique, l'abbaye de Saint-Savin que tu connais bien, pour t'occuper de la communication. Combien d'entrées l'année dernière, puisque l'année précédente d'ailleurs, on a gagné en...
Oui, on a gagné en gros 6500 personnes. On a réussi à avoir 28500 personnes l'année dernière. Mmh. Et j'espère que cette année, nous dépasserons les 30 000 visiteurs. Pour ce site exceptionnel, je rappelle, c'est le seul site UNESCO en propre de la Vienne, mais aussi de l'ancien Poitou-Charentes.
Exactement, avec une exposition cette année, hein, tout au long de l'année.
Oui, une exposition qui sera consacrée au déluge et à l'arche. 30 artistes qui revisitent le mythe universel du déluge, un mythe que l'on va trouver aussi bien chez les Sumériens que de façon plus contemporaine chez les Dogons en Afrique, chez les Chinois d'autrefois, mais également chez les Indiens Micmac, etc. Donc c'est véritablement un mythe universel. Mais ce déluge est aussi quelque chose qui nous interroge aujourd'hui avec la problématique du réchauffement climatique et de la montée des eaux.
Exactement. Eh bien, écoutez, on va parler d'eau, on va se faire une petite pause musicale dans un premier temps. Je pense qu'Isabelle va nous quitter ensuite, elle a fait la présentation, je la remercie d'être venue. Et puis on se reverra forcément bientôt, hein, que ce soit ici ou au Conseil Général. Je te remercie d'ailleurs, hein, de permettre que j'intervienne au Conseil Départemental pour le Triangle d'Or du Poitou. On va se faire une pause musicale, tiens, on va remonter la rivière tranquillement, la Gartempe. On va aller du côté de la rivière de notre enfance, c'est Michel Sardou et Garou qui nous chantaient ça il y a quelques années. Et on revient tout de suite après.
Je me souviens d'un arbre, je me souviens du vent, de ces rumeurs de vagues au bout de l'océan. Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid.
Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos.
Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un signe, d'une lumière dans le soir, d'une chambre anonyme. Je me souviens d'amour, je me souviens des gestes, le fiacre du retour, le parfum sur ma veste.
Je me souviens si tard, je me souviens si peu, de ces trains de hasard d'un couple d'amoureux. Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome, l'ombre du chagrin qui fait l'homme.
Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Béatrice Guillonnet et Geneviève Pinson. Béatrice Guillonnet qui est animatrice du patrimoine donc à la CCVG et Geneviève Pinson qui elle est archéologue. On va en reparler dans un instant avec le Roc aux sorciers. Je remercie donc Isabelle Soulard qui était présente juste avant cette pause qui nous a permis de nous rencontrer. On va remonter donc tranquillement jusqu'à la Thue, vous le disiez, le chaos donc lorsqu'on en arrive dans la Vienne. Cette rivière qui part de la Creuse qui fait 250 km, une petite rivière
Presque 204, alors c'est variable, on entend 204, 206 kilomètres sur, de la source à l'endroit où elle se jette, à La Roche-Posay, Yser-sur-Creuse. Ouais. Donc c'est assez amusant parce qu'elle naît dans la Creuse, le département, mais elle se jette dans la rivière Creuse. Et effectivement, c'est un très beau parcours qui est un petit peu plus sauvage en amont, on va dire, sur les terres plutôt granitiques, et qui s'assagit progressivement, qui s'élargit, donc quand elle arrive sur le calcaire à partir de la commune de Saugé.
Et qui est aussi magnifique quand en amont que chez nous, en fait, avec les portes d'enfer et ensuite la vallée. En fait,
elle est un peu plus petite, forcément, plus on remonte, plus elle est étroite. Mais effectivement, c'est un ensemble qui présente plusieurs faciès. La rivière un peu chaotique, la rivière un peu plus douce après. Donc, il y a des variantes sur un parcours assez court, en fait. Et donc, une vision un petit peu... partagés sur des paysages différents. Donc, c'est vraiment aussi une très belle vallée.
Oui. Exactement, avec des paysages magnifiques quand on va aux portes d'enfer. Donc, je voyais encore ce matin sur les réseaux sociaux des photos qui étaient postées. Les gens se demandaient où ça pouvait bien être. Beaucoup de gens ignorent cet endroit-là. Beaucoup de gens ignorent qu'il y a des falaises là-bas à visiter. Beaucoup de gens ignorent aussi que l'Anglin, qui fait partie des affluents de cette rivière, a énormément de choses. On parlera des falaises peut-être du côté d'Angle sur Anglin. C'est vrai que c'est une rivière qui a toujours accueilli de la population. C'est peut-être pour Geneviève, ça. Au niveau préhistorique.
Ah oui, je pense que là, il y a une bonne concentration de fréquentation ancienne, très ancienne. Il y a des sites du Néandertal comme jusqu'à aujourd'hui, donc avec l'homo sapiens, l'homme moderne. Mais on a toujours, l'humain a toujours été dans ces vallées. C'est son premier repère, je pense, dans le paysage. Et il va circuler de vallée en vallée. Et pour ceux du Roc aux sorciers, ils vont... bien sûr, naviguer entre Lussac-les-Châteaux et Angle-sur-l'Anglin, en passant par la vallée de l'Anglin, la vallée de la Gartempe, la vallée de la Vienne. Donc, ces rivières sud-nord là, sont très, très importantes. Oui,
avec de nombreux témoignages.
Depuis longtemps.
Ouais. Exactement, de nombreux témoignages. On parlait de Lussac.
Oui. C'est vrai qu'il y a, avec les sites de la Marche, les Fadets, ils sont, avec les plaquettes gravées, les représentations de têtes humaines, qui sont exceptionnelles, uniques au monde également, par la nature même de ce qu'elles figurent. De se représenter soi-même, c'est quelque chose d'osé et ça ne se fait pas normalement pendant toute la préhistoire. C'est vraiment une spécialité lussacoise et angloise, puisqu'on a aussi des visages à Angle.
Exactement, donc avec une rivière qui a dû évoluer à travers les siècles. Je regarde souvent, je fais les journées du patrimoine moi à l'ancien prieuré Fontevrisse de l'Appui, donc chez les sœurs, chez les filles de la Croix, et à chaque fois j'annonce la même chose, à savoir qu'il y a 300 millions d'années, si on était il y a 300 millions d'années, on aurait une mer au-dessus de nos têtes. C'est la réalité, mer qui s'est retirée, qui a formé
c'est ce... C'est tout à fait ça, les sols, les calcaires, la nature même des dépôts le montre, on était dans des périodes où c'était... les Bahamas, enfin c'était formidable, mais on n'y était pas, il n'y avait aucun humain, mais voilà, c'est un autre moment, mais en effet, la formation de nos calcaires est très très ancienne, et après c'est les rivières qui les ont façonnées pour tracer...
Ce qui a façonné ce paysage magnifique, quand on arrive donc à la du Saint-Rémy, c'est un des paysages magnifiques que vous connaissez bien, donc Béatrice, pour y habiter, pour les paysages et puis pour le patrimoine aussi. Je crois que vous avez une restauration en cours dans le secteur.
Oui, un travail de longue haleine.
Oui, tout ce qui est restauration. Et encore, moi, je ne parle qu'une petite maison, mais certains beaucoup plus gros.
Oui, c'est aussi la chance de ces territoires qui, finalement, comme c'était des territoires relativement pauvres sur ce sud du département, de la Vienne aujourd'hui, il n'a pas été trop modifié aux périodes plus modernes comme à la Renaissance ou à l'époque classique. Et très souvent, on a la chance de conserver des édifices de l'époque médiévale, puisqu'on était sur une zone aussi de transition qu'il fallait protéger. Donc beaucoup de petits châteaux ont été édifiés autour des 14-15e siècles, et n'ont pas forcément été modifiés par la suite, parce que manque de moyens, de richesses probablement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur tout ce territoire, et le long de la vallée de la Gartempe, de nombreux châteaux, justement, qui remontent au 14-15e siècle.
Exactement, qu'on retrouve d'ailleurs aussi du côté de Saint-Pierre-de-Maillé ou autre.
Tout à fait.
Des magnifiques châteaux. En descendant, quand on est à la Tue-Saint-Rémy, donc on descend en direction de Saugé, la rivière s'agrandit un peu, elle n'est pas forcément beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus calme, même je le disais tout à l'heure, puisque j'y étais l'année dernière avec Isabelle faire du canoë. On arrive ensuite sur Montmorillon, c'est vrai que là on a une ville historique qui a un certain caractère, je dirais, puisque c'est un peu la discussion du moment.
Ah, c'est la discussion du moment, effectivement. Nous étions cette semaine sur une rencontre pour une homologation. Petite cité de caractère. On croise les doigts pour que le projet puisse aboutir. Réponse au mois de juin, donc portée par la ville de Montmorillon. Et c'est vrai que c'est une ville qui profite à la fois de cette vallée de la Gartempe, hein, qui traverse la ville avec une rive droite, une rive gauche. Donc assez intéressante. La préhistoire aussi très présente, mais Geneviève pourra en reparler. Et puis une occupation qui va naître à l'époque médiévale autour d'un château qui malheureusement a disparu, mais on connaît bien le site avec la motte castrale, et puis des édifices importants comme l'église Notre-Dame qui dépendait de l'abbaye de Saint-Savin, et puis le site majeur de la Maison de Dieu.
Bien sûr.
Hôpital-monastère, hein, fondé autour des 11e, 12e siècles, avec un édifice assez extraordinaire qui est l'Octogone, ancienne chapelle de cimetière. Donc effectivement, il y a un patrimoine, une richesse extrêmement importante dans ce petit bourg, cette petite ville.
Oui, c'est 6-7 000 habitants peut-être.
Voilà, on est autour de 6 000 habitants
à peu près. Oui, une ville agréable qui peine malheureusement à se développer en termes de notoriété. C'est vrai qu'on se dit souvent, mince, c'est Montmorillon, et c'est une très belle ville, avec sa cité de l'écrit, avec ses auteurs. On avait Régine Desforges il y a encore quelques années. Vous parliez de rive gauche, je pense qu'elle habitait sur la rive gauche d'ailleurs.
Alors elle est née a priori plutôt rive droite, mais... Mais elle a bien connu la ville, effectivement, dans tous ses aspects. Voilà. Donc, grâce à sa famille, bien sûr, implantée sur le territoire.
Exactement. Beaucoup de personnes, de personnalités connues. Et puis, c'est vrai qu'on en parle, hein, l'origine préhistorique. On avait des populations déjà sur ce secteur de Montmorillon. On a des témoignages ?
On a des témoignages. On a le très beau site de la piscine qui a été découvert au moment où on construisait la piscine et qui a été fouillé par Étienne Marcel et qui est un site très riche et qui, malheureusement, jusqu'à présent, les collections n'étaient pas étudiées. Mais la ville de Montmorillon, qui en est propriétaire, en a fait le dépôt au musée de Lussac, où justement là, l'inventaire est repris. Et du coup, ça va donner une nouvelle vie à ce site, puisque des chercheurs vont venir étudier ces collections. Et en même temps, je signale qu'il y a eu une nouvelle association qui s'est créée, les Amis du musée de Lussac, les châteaux et de Montmorillon, qui s'associent pour justement faire rayonner et donner du sens à ces collections, aussi bien des beaux-arts ou historiennes de l'histoire à Montmorillon que de la préhistoire à Lussac. Et là, c'est un très beau geste pour rassembler des collectivités aussi autour d'un patrimoine à partager, en fait.
Exactement, un très joli petit musée, enfin petit musée, un très joli musée en tout cas, à visiter dans le centre du Lussac.
Hein, oui. Qui ne vieillit pas. Il est incroyable. Vraiment, je le conseille, il est très pédagogique et il est très beau. Et en même temps, il y a des œuvres qu'on ne trouvera nulle part ailleurs.
Exactement. Beaucoup de musées, d'ailleurs, dans la Vienne, on peut le dire. Beaucoup de patrimoine. On est dans une région assez particulière de ce côté-là. Je pense qu'on peut dire qu'on est dans un véritable écrin de patrimoine historique. On est sur Montmorillon. Montmorillon, donc, c'est une population, on l'a dit, à peu près 6-7 000 habitants. L'évolution aujourd'hui par rapport à cela, Montmorillon, au niveau du patrimoine, c'est une mise en valeur du secteur et des environs. On a beaucoup d'endroits à visiter. Hein.
Alors, Montmorillon, c'est la ville la plus importante du territoire de la communauté de communes qui porte le label Pays d'Art et d'Histoire, donc avec une mission de valorisation, de sensibilisation au patrimoine pour tous les publics, qu'ils soient donc le public jeune, les habitants, les élus aussi, et puis les touristes. Donc on essaie d'avoir une programmation, donc y compris à Montmorillon bien évidemment, qui valorise tout ce patrimoine avec le patrimoine naturel, le patrimoine bâti, le patrimoine immatériel également. Donc c'est vraiment dans sa globalité. Donc Montmorillon, c'est ce que je dis souvent, c'est une ville à la campagne puisqu'il s'est traversé par une rivière avec beaucoup de petits espaces verts aussi. Donc c'est vraiment vraiment un bel endroit qui allie à la fois le patrimoine et autour un écrin de verdure, donc qui met en valeur les différents sites.
Exactement, avec beaucoup de, on peut rayonner un peu partout sur le sud de Vienne à partir de Montmorillon, et puis tranquillement, si on continue à descendre la rivière, on arrive dans la vallée des Fresques. On l'a débuté à partir de Saugeais, et on descend tranquillement la vallée des Fresques. La prochaine étape, c'est quoi? C'est Jouet,
qui possède une chapelle, une petite chapelle, la chapelle Sainte-Catherine, qui a été construite à la fin du Moyen-Âge et qui conserve des peintures murales plutôt donc du 15e siècle, et qui sont très intéressantes parce qu'elles sont très proches de nous. Donc on peut observer des détails, ce qui n'est pas toujours possible, par exemple, à Saint-Savin, sauf à avoir les jumelles, bien évidemment, ou des photos, ou utiliser les tablettes numériques pour voir ces détails. Mais c'est vrai que l'avantage à Jouet, c'est qu'on est vraiment tout de suite très, très proche de ces peintures, et qui évoquent aussi des sites et des périodes un petit peu compliquées aussi du Moyen-Âge, puisqu'il y a une très belle scène qui raconte la rencontre des trois morts et des trois vifs, par exemple, et qui rappelle un petit peu que nous sommes dans une période de guerre, de famine et puis d'épidémie, de peste à ce moment-là. Et ces chevaliers qui pensent à la chasse, à la vie, et puis ces morts qui apparaissent et qui leur disent de faire attention et de penser à leur salut. Donc ça évoque aussi tout un contexte. Des costumes de l'époque, les chevaliers en scène sur leurs chevaux. Donc c'est vraiment ça reflète très très bien aussi la période.
Exactement. Donc Jouet, où vous donne rendez-vous donc Isabelle Soulard demain soir à partir de 17h30 pour sa conférence, et puis la visite des lieux, cette belle exposition sur les huit femmes. On descend la rivière. Cette rivière, cette eau, Geneviève, a toujours été la même. Je parle en termes de qualité. Depuis la préhistoire, elle a évolué.
Je ne saurais pas trop vous dire, mais pour moi, certainement, bien sûr qu'elle a évolué, puisque malheureusement, l'humain intervient et il met certaines choses qu'il ne devrait pas y mettre, parce que ça va à son... Enfin, c'est contre lui-même qu'il agit. Donc, c'est sûr qu'elle était beaucoup plus pure. Mais elle reste vitale, de toute façon. C'est très précieux. C'est d'ailleurs, ça va orienter l'installation des premiers groupes humains. Ça, c'est clair. C'est l'eau qui va vraiment être le point de raccord pour se dire, bon, on s'installe là, on passe par là. Parce qu'en fait, tout le monde passe par l'eau. Les animaux vont boire, les animaux vont traverser dans les gués, les troupeaux. Et bien, les humains, c'est pareil. Animal parmi les autres. Et donc, c'est très, très important ces vallées, parce qu'en fait, ça va orienter vraiment les installations et la circulation. C'est-à-dire qu'on va toujours suivre une rivière. Quand on ne peut pas être auprès, on remonte un peu sur le plateau, mais on redescend.
C'est ça, on suit toujours le cours d'eau.
Voilà, c'est tout à fait... c'est vraiment un signal très important. Et Jouet au Roc aux Sorciers, c'est aussi un lieu de... On va veiller aux confluences. C'est un point de repère géographique qui va tout de suite être marqueur. On va pouvoir se dire ou se donner rendez-vous. On va pouvoir... se repérer, parce que les panneaux d'affichage, tout ça, ça n'existe pas. Donc, il faut bien se retrouver quelque part. Donc, c'est par la haute falaise qui est là, à quelques distances, à tant de moments de marche, tant de minutes de marche, ou de la confluence, près du gué, tu verras, en amont, en aval, tout ça. Il devait se l'exprimer très bien, et c'est comme ça qu'il pouvait se repérer, se retrouver.
Exactement.
On va
se faire une deuxième pause musicale. On parlait de la qualité de l'eau qui doit être un peu différente en fonction de l'endroit où on se situe. Par contre, c'est vrai que le soleil, lui, est le même pour tout le monde. On a tous le même soleil, c'est ce que nous chante Grégoire.
On n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent. Mais chacun de nous est vivant, avec la même couleur de sang. Et on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? On n'a pas les mêmes coutumes, énorme mélange, on fait l'histoire. On n'a pas les mêmes parents, mais on est tous encore enfants, et tous issus d'un métissage, devenus fous mais nés si sages. Et on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils, et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous la même planète qui nous supplie d'être moins bêtes, et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Humain avec nos différences et le pouvoir d'en faire une chance, car on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils, et on a tous une main à tendre. Peut-on encore attendre? Car on a tous la même planète qui nous supplie d'être moins bête, et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommets, et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous le même soleil. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore seulement attendre?
Nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Geneviève Pinson qui est archéologue, et puis Béatrice Guionnet qui est animatrice du patrimoine à la CCVG. On parlait à l'instant de la Gartempe, on parlait de la veille des fresques avec Béatrice, des animations tout au long de cette veille des fresques organisée par la CCVG.
Oui, alors sur ce printemps, beaucoup d'animations autour de la vallée de la Gartempe, ouais. Puisqu'il y aura toute une journée, par exemple, autour du vélo pédaler ses vacances à Saugée, qui se déroulera le 26 avril. Et puis sur la commune de Pindray, qui est aussi une commune importante de la vallée de la Gartempe, puisque une partie de la commune est inscrite et classée comme site naturel. Hein. Là, on n'est pas sur le bâtiment, mais sur les édifices, mais sur vraiment le site. Et au cœur de cette commune, il y a aussi la petite chapelle de Pindray, la petite chapelle de Graillé, qui en ce moment, on va dire, fait l'objet un peu de toutes nos attentions, puisqu'on essaie de la sauver. Voilà, c'est une petite chapelle de l'époque gothique, très intéressante, et qui malheureusement a perdu sa toiture il y a de nombreuses années. Et maintenant, l'idée, c'est vraiment de pouvoir sauver l'ensemble. Et donc, nous avons organisé plusieurs animations. Il y aura une sensibilisation à la restauration autour de la pierre le 18 avril. Et puis ensuite, une balade sur la commune de Pindray, avec la chapelle de Graillé également, le 28 juin également. Donc c'est voilà, un focus sur, aussi sur cette commune de la vallée de la Gartempe, et une fête sur le château de Prunier qui lui domine complètement la vallée de la Gartempe. Ça fait partie de ces petits châteaux justement, construit pour défendre les circulations. Donc vous voyez que l'actualité sur la vallée de la Gartempe est forte.
Exactement. On se retrouvera d'ailleurs d'ici quelques temps pour reparler de l'ensemble de l'actualité sur le sud de Vienne, parce qu'il y a énormément de choses à voir et à cet été sur le secteur. On est sur la vallée de la Gartempe. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de travaux actuellement sur cette vallée des fresques, en tout cas, avec pas mal de restaurations. On a Antigny, on a Ujoué, on a l'Octogone, on a Pindray, pas mal de restaurations, pas mal de moyens qui sont mis en place pour cette... cette vallée des fresques.
Alors, il y a quelques années déjà, il y a eu un programme, effectivement, Vallée des fresques, qui a permis de restaurer déjà plusieurs édifices, comme vous l'avez évoqué, l'église de Saint-Germain aussi, l'église de Saugée, l'église de Saint-Savin, bien évidemment. Et puis, Antigny est en gros chantier, est parti pour plusieurs années de chantier. Il y avait déjà eu des restaurations dans la nef, mais là, maintenant, on va aussi toucher la partie du chevet, hein, du cœur de l'église, et le clocher en particulier. Et là, je pense qu'on va encore faire quelques découvertes de peinture murale dans cet édifice.
Exactement, sûrement beaucoup de choses encore à découvrir. On le fait un peu partout dans la Vienne. On a découvert même il y a quelques années maintenant des peintures, hein, dans la cathédrale de Poitiers. Donc tout reste à découvrir. C'est la même chose au niveau, je pense que c'est la même chose, hein, Geneviève, au niveau préhistorique. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. On parle du roc aux sorciers qui est exceptionnel, mais on a peut-être encore plus de richesses sous nos pieds sans le savoir.
Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de sites qui sont enfouis. Et il faut savoir que c'est une chance qu'on ait découvert le roc aux sorciers. Rien n'était visible. Hein. Et c'est la plupart des sites archéologiques préhistoriques, et notamment ces abris sous roche, qui sont complètement comblés de sédiments. Donc, on ne voit rien. C'est vraiment une chance de l'avoir découvert. Et c'est grâce à Suzanne de Saint-Mathurin et Dorothy Garrod qui, voyant une petite niche au sol, elles ont fouillé là, elles ont trouvé la frise en place. Mais autrement, de l'extérieur, rien n'est visible. Donc il y a un potentiel énorme, en fait.
On est vraiment dans un site unique au monde. On en parlait tout à l'heure, on parle de Lascaux, de la sculpture. On est vraiment dans un site unique au monde.
On est vraiment
moment,
dans un site unique au monde. Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est de la sculpture monumentale. On en connaît très peu de sites. Il y en a une douzaine à peu près au niveau national, donc international, puisqu'on n'en a pas de cette période-là du Magdalénien, il y a 15 000 ans. On n'a pas d'autres. C'est des sites surtout concentrés en Charente, avec la Chaire à Calvin, en Dordogne, mais et Angles, dans la Vienne. Mais c'est vraiment les autres sites sont beaucoup moins étendus. Angles sur l'Anglin, le roc aux sorciers, c'est plus de 50 mètres de sculpture en continu sur le long de la paroi, et avec un plafond aussi effondré en 1000 morceaux, mais qui est, fait aussi 50 mètres carrés à peu près de surface de sculpture. C'est de la sculpture monumentale. On a des sujets qui sont grandeur nature. On a un troupeau de bouquetins complet, les mâles, les femelles, les petits, et tout à échelle 1. Il y a des représentations féminines uniques au monde, là aussi, elles sont grandeur nature. Il y a tous ces éléments font que c'est un site déjà exceptionnel. En plus, c'est un abri sous roche. Et donc, on y a découvert toutes les traces d'occupation. Donc, on associe le quotidien, la vie, les vestiges de la vie quotidienne, la taille du silex, le traitement des animaux, la faune, etc. Les parures, le traitement de travail des parures. On trouve tout ça associé à la paroi ornée. Ça, c'est exceptionnel. Dans une grotte ornée, vous n'avez pas ce remplissage sédimentaire avec toutes les occupations. Une grotte ornée profonde, on y rentre, il y a quelques traces au sol, mais c'est très fugace. Tandis que là, vous avez vraiment l'occupation, tous ceux qui sont venus, qui sont installés, etc., associés à ces œuvres pariétales. Donc, se posent d'autres questions qu'une ce que l'on c'est des grottes ornées, qu'on parle souvent de sanctuaires, etc. Là, on est sur ce lien entre art et quotidien. Quel sens avait-il ? Il était en plus ouvert vraiment vers la nature, donc il était en symbiose avec la nature. Il y a vraiment quelque chose de très particulier, et des abris ornés et occupés au Magdalénien, il n'y en a pas d'autres de cette envergure. À ça s'ajoute la nature même du groupe qui vient occuper ce lieu. Il y a donc 15 000 ans, ce groupe, il représente des figures humaines, des visages humains, et à Angles, c'est le seul visage humain gravé sur la paroi qui sourit. Il n'y en a pas d'autre au monde. Et le sourire, il est tourné vers l'autre. Donc, s'il s'adresse à vous encore aujourd'hui, il s'adressait aux Magdaléniens de l'époque, mais il s'adresse à tout visiteur qui vient à Angles sur l'Anglin. Et ça, vous n'en avez pas d'autre actuellement dans toute la préhistoire. Et la préhistoire, c'est long comme temps.
Tout à fait,
voilà.
Oui.
Je vous ai expliqué. Ah, moi, je peux aller encore vous en rajouter, mais voilà.
Alors là, je suis heureux d'être avec deux femmes ici. On avait tout à l'heure Isabelle Soulard aussi avec nous. On parle justement de ce roc aux sorciers. On s'aperçoit qu'il y a des représentations féminines. On s'aperçoit que ce sont des femmes qui ont découvert les lieux. On s'aperçoit que c'est un endroit qui est malheureusement méconnu par rapport à Lascaux, par rapport à d'autres. La raison, c'est pour vous, c'est quoi?
Il y en a plusieurs. Alors, la première, c'est que c'est vrai pour dans le monde de la préhistoire. Pour mes collègues, moi encore aujourd'hui, ils ont du mal à aborder ce sujet. Soit ils sont sur des sites d'occupation, soit ils sont dans les grottes. Mais l'entre-deux, abris ornés, occupés, c'est une originalité. Donc déjà, ça ne rentre pas dans les grands corpus, tout ça. Et puis, il y a une autre chose. On est la veille du 8 mars, je dois dire, je ne peux pas ne pas le dire.
Exactement.
C'est que je pense que le fait que ça a été découvert par des femmes, ça n'a pas eu la même notoriété que si ça avait été tout découvert par des hommes. J'en suis quasiment certaine. Après, je suis peut-être partie prenante sur ce point de vue, mais voilà, je pense que c'est vrai. Pour avoir connu Suzanne de Saint-Mathurin, je sais que c'était un de leurs soucis. Suzanne de Saint-Mathurin, Dorothy Garrod et Germaine-Henri Martin, les trois amies inséparables, elle faisait bloc face à ce monde d'hommes de la préhistoire de l'époque. Et c'est vrai qu'en plus, ce n'était pas des, n'importe quelle femme, c'était des pionnières de la préhistoire qui avaient en main les plus beaux sites de l'époque, les plus importants. Et donc, je pense qu'elles ont dû se battre au quotidien.
Les jalousies qui ont fait que... Ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est un endroit magnifique à découvrir. Ce qui peut manquer aujourd'hui, peut-être, c'est la représentation. C'est-à-dire, quand on regarde Lascaux, on a Lascaux 2, Lascaux 3 et compagnie. On a une représentation ici qui est peut-être un peu vieillissante, non ?
Alors, aujourd'hui, là, elle marche très bien. Hein. Il y a 26 000 visiteurs oui, par rapport l'année, à la, donc ça marche très bien. Mais en effet, il est fatigué, le site et le centre d'interprétation. Il a peut-être été aussi pas complètement achevé au moment où il a été engagé, puisque ça a été fait un peu toujours dans la précipitation. Et que tous les moyens voilà, sont limités. Mais aujourd'hui, il y a quand même un discours qui fait que c'était vraiment un support pour partager ce site. Et c'était l'objectif de ce centre d'interprétation. Ce n'était pas d'avoir le facsimilé tel que. C'était vraiment un support de partage de ce site. Et en revanche, le gestionnaire actuel, qui est un privé... la société Delbos, Laurent Delbos et Jean-Max Touron, ont vraiment des perspectives de faire évoluer ce site. Mais bien sûr, ça se fait avec des moyens, donc il faut des mécènes, ça se fait avec les collectivités, il faut des élus qui soient mobilisés. Donc on attend bien sûr les prochaines élections. C'est pas qu'il n'y en avait pas auparavant, hein, au préalable.
Donc c'était un peu compliqué tout de même.
j'en connais qui sont des passionnés, notamment à Châtellerault, qui étaient passionnés de d'angle et du rock aux sorciers. Mais je pense qu'il faut, c'est ça, il y a un moment, il faut continuer à développer ce site pour le rendre au public. Et il y a bien sûr cette volonté du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, qui détient toutes les collections des fouilles, qui a envisagé le dépôt à Angles-sur-l'Anglin de certaines de l'essentiel des blocs ornés notamment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment faire aboutir, c'est sûr. D'abord parce qu'en fait, on aurait un vrai travail avec même la participation du public pour remonter tout ça. Il y a des tas de moyens aujourd'hui qu'il faut qu'on peut partager la science et la rendre plus ouverte. Et c'est ce que je tente de faire, moi, avec... dans le cadre du programme de recherche que je conduis actuellement, qui est le programme collectif de recherche Magdala pour Magdaléniens de Lussac-Angle, c'est une autorisation triennale du ministère de la Culture. Et cela me permet de rassembler 35 chercheurs dans des spécialités très diverses, des jeunes et des confirmés, pour que chacun se transmette ce savoir. Et l'idée est bien sûr de, par rapport à l'art, on a énormément de gravures à Angles qui sont inédites. Et le principe est de proposer à la population, à ceux qui en ont envie, de découvrir avec nous ce qu'il y a sur ces gravures. Et donc, on va monter des ateliers participatifs à partir du mois d'avril-mai pour expliquer comment on distingue une gravure d'une fissure, etc., sur des documents photographiques de plusieurs éclairages du même bloc pour avoir l'ensemble des traits. Et chacun prend un éclairage, un calque et relève les gravures. Et après, on superpose tout ça et ensemble, il y aura un autre atelier pour déchiffrer mais qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que c'est ça, etc. Et je sais que déjà, plusieurs personnes ont envie de participer. Bon. Auront-ils l'œil de l'archéologue, c'est-à-dire de s'arrêter aux faits et de décrire vraiment ce que... Aurait-il l'œil de l'artiste qui aura tendance, lui, à tout de suite projeter l'image ? Ça va être très intéressant, je pense. Oui. Et ça, c'est une affaire à suivre, je vous le dis tout de suite.
Exactement. Mais vous reviendrez de toute façon à nous voir d'ici le mois de juin si vous avez la possibilité. Vous avez un agenda qui est toujours très, très, très pris. On parlait du rock aux sorciers. On peut parler aussi du village, un peu Angles-sur-Anglin, qui est magnifique. C'est peut-être un peu ce qui pose problème, d'ailleurs, parce qu'il est tellement magnifique qu'il est difficile d'accès.
Ah oui, complètement. En fait, Angles-sur-l'Anglin, c'est un des plus beaux villages de France, oui. Le seul dans le département de la Vienne. Il allie tout, il a toutes les protections possibles, donc il a beaucoup de bâtiments classés, il a le clocher de l'église Saint-Martin, il y a la croix aux Anières, il y a le porche de l'abbaye de Sainte-Croix, il y a le château qui est classé, le site du Roxé, la vallée est classée, elle est Natura 2000. C'est beaucoup de qualité qui fait que c'est un village exceptionnel. Et du coup, c'est un village qui doit se contraindre pour préserver tout ça. Et là, c'est vrai que ça demande de la part de chacun, si on veut garder ce plus beau village dans son état, un effort. un effort, mais en même temps qui est récompensé, puisqu'en fait, il a tout son attrait. Après, la difficulté, c'est qu'en effet, on ne peut pas se garer si facilement que ça.
Donc,
il y a plusieurs parkings, il y a le parking du château, il y a le parking de la salle de fête. Mais vous voyez, là prochainement, le 4 avril, je crois, Terra Aventura vient faire sa journée régionale ici. On se débrouille pour trouver les parkings. La municipalité a fait ce qu'il, faut pour demander à des propriétaires qui sont très gentils et généreux pour permettre de se garer dans leur champ à l'entrée de, dans les entrées de, ville, de la ville. Donc voilà, on peut y arriver, mais voilà, il faut qu'on s'organise et puis il faut à angle que les... voilà, qu'il y ait une participation de la population. Le village ne s'en sortira pas si c'est dans la main de deux ou trois seulement. Il faut vraiment... et là, je dois dire que à Angers, tout le monde s'est toujours bien mobilisé. Ça se ressent au niveau des élections. On sent qu'il y a une volonté d'agir. Donc, moi, je suis assez positive et optimiste pour dire que ce village, il gardera son cachet parce que je pense qu'à plusieurs, on peut y arriver. Voilà.
Exactement, un très beau village qui permet de partir en randonnée, je suppose,
avec
que pratiquer la randonnée.
Donc, oui, avec beaucoup de chemins.
Avec
oui.
de grottes en château, notamment, hein, qui permet justement d'aller sur les deux communautés de communes, de retrouver tranquillement la vallée de la Gartempe en partant sur Saint-Pierre-de-Maillé. Beaucoup de balades hein, de ce côté-là. Hein,
le sentier de randonnée de grottes en château, effectivement, oui. est un beau sentier qui permet de passer de la vallée de la Gartempe à la vallée de l'Anglin. Donc, il y a vraiment des paysages magnifiques. Et puis, ces châteaux qui bordent aussi les deux vallées. Et c'est ce qu'on abordera d'ailleurs sur la première balade de la saison pour nous, le 29 mars, puisque nous serons à Saint-Pierre-de-Maillé. Et nous commencerons sur la vallée de la Gartempe avec le château de la Guittière, qui est vraiment sur une falaise aussi, donc assez escarpée. Juste en face, il y a le château de la Roche-Aguet. Et puis ensuite, nous irons du côté de la vallée de l'Anglin, qui est très très belle aussi à ces endroits-là, avec des roches et des falaises sur le site de la Guignoterie. Je suis sûre que là aussi, les hommes de la préhistoire y sont passés. Et puis, avec le château de Puy-Giraud également sur la vallée de l'Anglin. Donc vraiment, voilà, des architectures intéressantes, des paysages aussi magnifiques. On est toujours sur le même principe, hein, un petit joyau avec de très beaux écrins.
Exactement. On va se faire une dernière pause musicale avec quelqu'un qui a habité le secteur. Hein. On va passer de l'autre côté de la rivière avec Gilbert Bécaud. On revient tout de suite après.
De l'autre côté de la rivière, c'est déjà le paradis. Ce n'est presque plus la terre, cette terre où tu t'ennuies. Si tu passes la rivière, toute bleue dans le soleil, tu sauteras la barrière du ciel. De l'autre côté de la rivière, tout le monde est bien gentil. On ne fait pas de misère, même autour tout petit. Il y a de la lumière jusque dans le fond des puits. De l'autre côté de la rivière, mais ouais, côté de la rivière, nous nous sauverons demain en sautant de pierre en pierre. Ne lâche pas la main, et sera la première que j'emmènerai là-bas. Côté de ma rivière, à moi, de l'autre côté de la rivière, tu comprendras que l'amour est plus clair que cette eau claire qui roule depuis toujours. Et la vie sera légère à tes épaules d'enfant. Il faut passer la rivière avant. De l'autre côté de la rivière, faut arriver les mains nues et la tête sans colère, même si tu as tout vu. De l'autre côté de la rivière, oui, on va tout regardé en arrière.
Nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Geneviève Pinson, qui est archéologue, et Béatrice Guillonnet, qui est animatrice patrimoine à la CCVG, communauté de communes de Vienne et Gartempe. On parlait de la Gartempe, on parlait de l'Anglin, on parlait d'Anglo-sur-Anglin. On parlait aussi hors antenne de la population qui évolue pas mal. Hein. On a l'impression d'avoir de nouveaux arrivants, ce qui est souhaitable et heureusement en cours. Hein.
À Angle-sur-l'Anglin, c'est un fait. Lors des vœux du maire, en effet, nous a annoncé, bon, il y avait une naissance, c'est bien, c'est super, mais il y avait surtout une trentaine de nouveaux arrivants. Donc, c'est pour un village de 360 habitants, c'est beaucoup. Et ça veut dire que le village attire, hein, et en même temps qu'on a envie d'y vivre. Et ben, je pense que c'est aussi, ça fait partie de la future dynamique qui peut permettre de faire évoluer ce petit village tout en le gardant tout son charme.
Exactement. Ce qui a peut-être convaincu aussi Alain Pichon à l'époque, hein, d'essayer de développer ce triangle d'or du Poitou en se disant qu'on a un secteur magnifique, un secteur exceptionnel. Je lis souvent, un Chauvigny, c'est 30 000 visiteurs par an. Anglo-sur-Anglin, à peu près la même chose. On a Saint-Savin qui est à peu près dans la même moyenne, ce qui nous fait 90 000 visiteurs par an, sachant qu'un potentiel comme celui de Saint-Savin, c'est au minimum 200 000 visiteurs, hein, pour la moyenne basse des sites classés au patrimoine mondial. Donc énormément de possibilités, à condition en même temps d'accompagner tout ce qui est circulation et autres, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué du côté d'Angle-sur-Anglin, mais c'est la même chose, je pense, hein, dans l'ensemble du secteur. Hein. Beaucoup de choses à revoir, peut-être.
Il y a tout un travail à faire, et puis pour les développements aussi des circulations plus douces, pour attirer aussi un touriste durable.
Tout à fait. En vélo, il y a d'ailleurs un circuit qui est en train de se mettre en route qui fait 84 km, je crois, hein, autour du triangle d'or du Poitou, c'est ça.
Donc c'est vrai que oui, après forcément, si plus on accueille de personnes, plus il faut aussi avoir des aménagements adaptés. Mmh. Et puis tout ce qui va avec, hein, restauration, hébergement. Mais voilà, il y a déjà un réseau important d'hébergement, de gîtes, de chambres d'hôtes sur ces territoires. Et donc il y a tout un travail de chef d'orchestre peut-être.
C'est ça, c'est un peu votre travail aussi au niveau de la CCVG
Alors, en partie, pour certains de mes collègues, et puis de l'Office de tourisme aussi, hein, qui a cette vocation, hein, aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir, de ne pas travailler trop en silo et de travailler tous ensemble avec chacun, bien sûr, ses spécialités et ses approches. Mais l'important, c'est de pouvoir être ensemble, coordonner et aller dans la même direction.
Exactement. On a l'impression, justement, je le dis sans arrière-pensée, mais c'est vrai qu'on a l'impression au niveau de la CCVG qu'il y a un énorme travail qui a été fait par rapport au patrimoine, par rapport au paysage. On n'a pas le même sentiment quand on a Grand Poitiers, par exemple. Pour tout vous dire, Grand Poitiers a développé la mobilité vers Chauvigny, hein, on a des bus, mais à part ça, on n'a pas l'impression que Grand Poitiers s'intéresse véritablement au patrimoine dans le secteur Chauvigny et autres. Par contre, ce n'est pas le cas de la CCVG. Vous faites énormément, que ce soit à Montmorillon, que ce soit à Saint-Savin, que ce soit à Saint-Pierre-de-Maillé.
Mais c'est l'avantage d'avoir aussi un cadre qui, pour nous, est le cadre du label Pays d'Art et d'Histoire. Ouais. C'est une convention.
On a aussi sur Poitiers, d'ailleurs, il me semble. Hein.
Tout à fait.
Mais qu'on a
Grand
moins
Poitiers,
ce sentiment.
Oui, ouais, Grand Poitiers. Et puis, c'est comme les compétences de la communauté de communes sont multiples, et c'est vrai qu'il y a eu aussi un plan paysage qui a été donc réalisé sur le territoire. Alors, un plan paysage tourné aussi sur les énergies renouvelables. Et puis, il y a tout ce travail, hein, de valorisation, de sensibilisation au patrimoine, au sens large du terme. Et plusieurs acteurs aussi, hein, du territoire travaillent en ce sens. Hein. Il y a bien sûr des associations locales, je pense à l'Écomusée et d'autres, les musées aussi sur le territoire, musée de Civaux, musée de Montmorillon en particulier, et puis les sites comme Saint-Savin, bien sûr, le PCC. On essaie d'avancer tous, si possible, main dans la main, dans la mesure du possible, pour valoriser et faire connaître ce territoire qu'il mérite, sans être chauvine pour deux sous. C'est quand même la plus belle partie du territoire du département.
Exactement. Alors j'allais dire par contre le mai, le grand mai, j'avais parlé d'Antoine Sellos, hein, qui se plaignait encore cette semaine des éoliennes forcément, parce que c'est vrai que vous êtes la zone de la Vienne, en tout cas qui en reçoit le plus, la concentration est énorme, c'est vrai qu'on parle de plan paysage, mais je ne suis pas certain que de ce côté-là.
Alors le plan paysage a été fait aussi justement pour essayer de calmer le jeu, et il y a des applications après dans le PLUI, mais c'est très compliqué de faire face effectivement aux promoteurs. Et puis, la difficulté que nous avons sur le territoire, c'est que c'est un territoire de bocage, donc avec beaucoup de prairies qui ne sont pas toujours sur des sites qui sont très faciles à exploiter. Donc, eh bien, c'est des territoires qui restent quand même, d'un point de vue agricole, assez difficiles. Et certains savent très bien prendre une brèche, on va dire.
On avait il y a quelques années un projet qui était sur la Bussière, il y en a eu d'autres, sur la Bussière, juste au-dessus de l'ancien prieuré Fontevrisse de l'Appui. Et on nous a dit à l'époque que la population était vieillissante. C'est pour ça qu'on voulait installer ce type de projet dans le secteur. On a démontré qu'il y avait une école avec 60 enfants au pied. Ça a bien fonctionné puisqu'on a eu la chance de voir disparaître le projet. On a eu la chance aussi d'avoir un site exceptionnel à côté. C'est l'abbaye de Saint-Savin, je crois, que l'on n'a pas forcément le Sud-Vienne. C'est vrai que le Sud-Vienne mérite d'être connu. Il y a quand même des belles choses à voir dans Sud-Vienne. Je parle notamment de cette ville-là qui appartenait au découvreur, on va dire, ou à l'inventeur du canal de Suez ou de Panama.
De Panama, ouais. Tout à fait. Oui, le site du Riche Azra sur la commune, oui, voilà. De Journay. Alors, une commune qui est très riche puisqu'elle possède aussi le prieuré de Ville-Salem, oui. Donc prieuré Fontevrisse également. Donc, nous en sommes locataires d'ailleurs, et donc nous organisons aussi des visites sur le site. Et puis, avec l'Office de tourisme, en partenariat, on travaille aussi régulièrement en période estivale, à faire des visites sur le site du Riche Azra avec une personnalité effectivement assez étonnante. Monsieur Godin de l'Épinay, qui était un ingénieur qui a construit beaucoup de lignes de chemin de fer un peu partout dans le monde et qui a réalisé des plans pour le canal de Panama, mais il n'a pas remporté le morceau puisque c'est Ferdinand de Lesseps qui a gagné, on va dire, le concours. Mais les travaux de Ferdinand de Lesseps ont été une véritable catastrophe. Et finalement, les Américains, quand ils reprennent le canal de Panama, eh bien, s'appuient sur les plans de M. Godin de l'Épinay. Donc, reconnaissance après son décès, malheureusement, mais il a œuvré, et puis sur son site familial au Riche Azra, il a fait aussi beaucoup, et c'est ce qu'on raconte dans nos présentations et nos visites qui se tiennent l'été.
Exactement, beaucoup de personnalités. On a notamment aussi du côté de Saint-Savin, Léon Hédoux, qui est l'inventeur de l'ascenseur. Si on remonte toujours du côté de Montmorillon, on avait aussi le valet de cœur, me semble-t-il.
Oui, Laïre, tout à fait. Compagnon de Jeanne d'Arc.
Exactement.
Ça sera d'ailleurs le thème un petit peu des journées à Prunier au mois de juin, donc autour du Valet de Cœur et de l'Aïre.
J'espère qu'on pourra se voir d'ici là pour
reparler grand plaisir.
De ce programme, il n'y a pas de problème. On parlera aussi, j'espère, on pourra revenir avec Geneviève pour parler de tout ce qui est archéologie. La passion de l'archéologie vous vient d'où? C'est vrai qu'il faut quand même en vouloir, il faut quand même y aller.
Oui,
c'est quand même quelque chose de passionnant, mais...
En fait, c'est j'avais envie de faire ce que j'aime. Hein, donc, ouais. Je me suis dit, je vais gratter la terre, découvrir des choses, comprendre. Et plus c'est fugace, plus je trouvais ça intéressant. Parce que ça laisse une part à l'imaginaire, qui est super. Donc, ça... Et puis, bon, c'est vrai que la première passion de tout ça, c'est les grottes. De Lussac, les châteaux, autour du Lussac, Fronsserin, etc. Où, enfant, j'ai passé mon temps avec mes frères et sœurs à traîner en vélo et aller dans les trous, à revenir tout plein de gadoues. Mais on était tellement heureux et franchement, ça, j'adorais ça. Et ça ne m'a pas quittée.
Voilà. Ces grottes se visitent toujours du côté de Lussac?
À Fronsserin, je crois qu'elle est fermée, mais elle doit être visitable parce que c'est le centre de l'ATU qui le gère.
Oui, le CPA crois. Qui voilà. Envoie des jeunes pour passer la nuit, des fois, dans le secteur. Mon fils y est allé, d'ailleurs.
Voilà. Donc, c'est... Voilà. Moi, nous, c'était notre jeu enfant. Et c'est vrai. Mais c'était dangereux, en même temps, parce qu'il y a le lac intérieur, là. Mais le lac, etc. Mais j'ai ces souvenirs-là. Et en fait, c'est ça que je pense. C'est plus l'intérêt pour l'histoire, etc., par ma mère qui était... professeur d'histoire. Et donc, voilà, je crois que j'ai baigné dedans. Ça s'est tombé sur moi parmi les 6 enfants. Voilà, c'est comme ça. Les autres ont d'autres spécialités. Mais c'est la préhistoire, c'est vraiment... j'ai ce goût-là parce qu'en fait, ce que je disais, c'est l'imaginaire. Parce qu'il y a le fait archéologique. J'adore être très scientifique. Ça, c'est mon truc. C'est le fait. On reste dans... On mesure, on compte, on observe, on essaie d'analyser, mais après il y a l'interprétation. Et l'interprétation, c'est un champ assez large, puisqu'à partir du moment, enfin franchement, moi j'adore justement la médiation pour ça, de rencontrer des médiateurs, parce qu'en fait, ils ont la part de création pour mettre en lumière le fait archéologique. Et plus on est nombreux à le lire, ce fait archéologique, plus il y a des esprits différents, plus des centres d'intérêt différents. C'est comme pour la recherche, plus on est nombreux, plus on a d'informations. Et quand on interprète, plus on est nombreux, mieux c'est aussi, parce qu'en fait, chacun peut y mettre de sa part. Et ça, tout ça, c'est du collectif, en fait, et c'est de la construction collective. Et moi, j'adore ça. Voilà.
Exactement. L'idée pour l'interprétation, c'est d'aller au centre d'interprétation, justement, dans l'angle de Suranglais.
Voilà, que je conseille de faire une visite guidée. La directrice, Laura Paris,
oui, tout à fait, qu'on avait reçu ici même.
Tient très, très bien le centre. Elle s'en débrouille très, très bien. Et franchement, elle a beaucoup de mérite, parce que c'est pas toujours facile au sein d'un village d'être une entité privée qui a une forte économie, en fait, qui est quand même le point central économiquement du village. Il y a d'autres acteurs économiques, bien sûr, les restaurateurs, les artisans, etc. Mais c'est quand même un lieu qui attire, entre les plus beaux villages de France où le monde entier se déplace pour les plus beaux villages de France, et le Roc aux Sorciers où le monde entier se déplace pour le Roc, pour voir le site. C'est vrai que c'est important de s'arrêter, de se promener à Angles et d'aller voir le centre d'interprétation et de faire la visite guidée à la fois du centre et du château, parce que le billet est lié. Voilà, est
commun. Écoutez, on essaiera de vous réinviter, d'ailleurs peut-être avec Laura qui était venue il y a 2-3 ans ici, revenir ensemble pour parler d'Angles sur Anglin et du centre d'interprétation. Merci à vous deux, merci Béatrice d'être venue. On refixe une date là aussi pour se voir avant la fin du mois de juin.
Avec grand plaisir.
Avant la fin de la saison. Merci d'être venue. La semaine prochaine, pas d'émission, hein, c'est le printemps des poètes, donc c'est Papy qui prendra la relève. Merci à tous, bonne semaine, à bientôt, au revoir.
Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.